السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères en islam, à l'époque où nous vivons, de la société dans laquelle nous vivons, à l'île de la Réunion, pays français, européen, au XXIe siècle, l'attachement, l'amour pour le dunya, le fait de posséder, le fait de réussir sa vie mondaine, de réussir sur le plan financier, tout cela, notre existence tourne autour de ces concepts. Pourtant, mes chers frères de le Coran, Allah Ta'ala dit « وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا » Dans ce verset, Allah Ta'ala approuve, atteste le fait que l'être humain, d'une manière innée, naturelle, est attaché aux biens de ce monde. Mais l'attachement que l'être humain a pour les biens de ce monde, les biens de ce dunya, à notre époque, c'est devenu quelque chose d'excessif. Ce n'est plus au niveau de l'innéité, ce qui est tabiri, ce qui est dans la nature humaine. L'attachement pour les biens de ce monde est devenu une conquête, c'est devenu une obsession. Un tel point que celui qui possède, celui qui a fait beaucoup d'études, qui a une reconnaissance de la société et qui a donc un portefeuille conséquent, alors celui-là c'est quelqu'un qui réellement a réussi dans cette vie. C'est quelqu'un dont la personnalité forge l'admiration. Plus vous possédez, plus vous êtes quelqu'un qui compte dans la société, malheureusement. Et au XXIe siècle, dans un pays occidental, l'homme moderne, l'homme comblé, c'est celui qui possède une belle maison, en option avec piscine, c'est celui qui a une belle voiture, c'est celui qui a une jolie épouse, une jolie femme, et peut-être quelques maîtresses et affinités si vraiment il veut prouver son épanouissement sexuel et son adaptation aux mœurs de la société. C'est également quelqu'un qui aime la mode, qui a des loisirs, qui a des goûts de luxe. C'est quelqu'un qui est écolo également. Et si, sur les bords, il aime les chemises à fleurs, il est légèrement homo, alors c'est vraiment une personne in du XXIe siècle. En fait, il est behind, mais dans la société, on le considère comme étant quelqu'un de in. Ça, c'est la conception de l'homme qui a réussi dans ce dunya. L'obsession, l'amour sans bornes et sans limites, gagner toujours plus, être au-devant de la société. Ça, c'est l'homme qui a réussi de ce dunya. Maintenant, dans ce contexte, mes chers frères, imaginez une personne qui ose clamer haut et fort que moi, les biens de ce monde ne m'intéressent pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le moment où je vais quitter ce monde pour vivre l'autre étape de ma vie. Alors, lorsqu'un autre, quelqu'un qui est imprégné de cette culture occidentale entend ce discours, assurément, il qualifie cette personne comme quelqu'un de désespéré, qui a besoin d'un suivi psychologique, ou d'un suivi même psychiatrique. Ou alors c'est un suicidaire, c'est un fou. Ou si c'est une femme, c'est parce qu'elle met la burqa certainement qu'elle est aussi malheureuse. C'est une autre histoire. Cette étape qui est incontournable, la mort, c'est un sujet tabou, c'est un sujet inconnu, ça fait peur. De nos jours, on peut parler de tout. On peut parler du sida, on peut parler de la famine, on peut parler du cancer, on peut parler de la faim dans le monde. Mais ne parlez pas de la mort. Voyez-vous des émissions, 7 à 8, ou alors je ne sais comment ça s'appelle ces émissions-là, qui abordent le thème de la mort? Non, personne ne veut entendre parler de la mort. Ne parlez pas de la mort sur le petit écran ou le grand écran, c'est quelque chose que nous ne maîtrisons pas. Personne n'en est revenu pour témoigner. La société a peur. On peut parler de ce qui amène vers la mort, asbab ou maut, des accidents, etc., etc. Mais la mort en elle-même, c'est un sujet tabou. Alors que nous, musulmans, nous avons les réponses sur la mort. Nous savons quelle est la vision de la mort de l'islam. Ce n'est pas la fin de tout, c'est un passage vers le monde éternel. Mais une petite question, est-ce que le musulman est en droit de demander à Allah Azza wa Jal de lui accorder la mort? Non. Parce que le musulman, il a ce qu'on appelle, je ne sais pas si ça doit être de l'anglais, une positive attitude. Il pense de manière positive. Le musulman se doit de faire de son mieux, tant dans sa vie mondaine, que pour préparer son akhirat. Le musulman ne désespère pas. Il ne fait pas partie des fatalistes, ceux qui ne bougent pas, qui ne font pas d'efforts et qui attendent la mort parce que cette vie est trop difficile.
Ça, c'est une petite parenthèse. Maintenant, l'islam nous a donné une description précise des deux étapes de notre existence. Il n'y en a pas 50. L'étape de la vie de ce dunya. Ad-dunya sijnun lil-mu'mini wa jannatun lil-kafir. Ce bas monde est un paradis, est une prison pardon, pour le croyant et un paradis pour celui qui ne croit pas. Et l'islam nous décrit la mort comme étant raha, comme étant la délivrance, comme étant le repos pour le mu'min. Mais, mes chers frères, en ces deux étapes, entre la vie et la mort, il y a un moment clé, un moment très court, un laps de temps qui, pour être plus précis, se situe exactement entre la fin de ce qu'on appelle al-ihtidar, la fin du sakaratul maut, la fin de l'agonie, et juste avant khuruj ur-ruh, juste avant que l'âme ne quitte le corps. Il y a ce laps de temps qui dure, wallahu alam, combien de temps, quelques secondes ou une fraction de seconde, mais c'est des secondes du akhirat. Ce ne sont pas des secondes de ce dunya. Ce laps de temps, il se passe quelque chose d'extrêmement important. C'est un moment clé. C'est le moment de vérité. C'est à ce moment précis qu'on distingue le kafir du muslim. Qu'on distingue le musulman pieux, adorateur d'Allah, du fajir, du fasir, de celui qui n'obéissait pas à Allah Azza wa Jalla, le pécheur. Ce moment clé, mes chers frères, c'est la première étape de l'au-delà. C'est le premier message qui nous parvient de l'autre monde. Il y a une frontière entre ce dunya, entre notre vie à nous et la vie du akhirat. Là, en ce moment, au moment où nous parlons, il y a des malaïkas qui sont présents dans l'assemblée. Mais nous ne les voyons pas. Nous ne les sentons pas. Nous ne les entendons pas. Mais ils y sont. Mais il y a une frontière infranchissable, indescriptible, entre notre vie à nous et le alamul ghaib, le monde de l'invisible. Et à ce moment qu'on est en train de décrire, cette frontière va s'effriter jusqu'à disparaître. Parce que le premier message de l'au-delà arrive alors que l'homme, la femme, que l'être humain est encore de ce dunya. Et qu'il est en train de vivre les dernières secondes de sa vie. Et pour ce moment-là, mes chers frères, c'est pour ce moment-là que nous faisons la salat. C'est pour ce moment-là que nous faisons des bayans. C'est pour ce moment-là que nous faisons des ta'alim. C'est pour ce moment-là que nous mettons en garde contre tel péché, tel fitna, etc., etc. À ce moment-là, le musulman reçoit la visite et la nouvelle d'un ange qui vient du ciel et qui l'annonce soit la bonne nouvelle, soit la mauvaise nouvelle. Lorsqu'on entend ce hadith, « Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'd al-maut » Le musulman intelligent, c'est celui qui travaille, qui fait des efforts pour préparer sa vie après la mort. Ben, mes chers frères, cette préparation que nous faisons depuis 60 ans, 70 ans, nous cueillons les premiers fruits à ce moment précis. Je suis encore vivant, je vois ma femme, mes enfants, mon papa, éventuellement ma mère, ils me voient soupirer, transpirer du front, ils ne savent pas ce qui est en train de se passer. Si je suis un musulman pieux, je reçois la visite de cet ange. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'a. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'a. Celui qui aime rencontrer Allah, Allah aime le rencontrer. Celui qui n'aime pas rencontrer Allah, Allah ne veut pas le rencontrer. Aïcha radiallahu anha demande au prophète d'Allah, inna la nakrahu al-maut. Mais personne ne veut mourir. Le prophète m'a dit, laysa dhalik. Walakin al-mu'mina. Idha hadarahu al-maut bushir. Ce n'est pas ce que vous avez compris, ce n'est pas aimer la mort. Mais lorsque le musulman va quitter ce dunya, il reçoit la bonne nouvelle à ce moment. Quelle bonne nouvelle ? Biridwanillahi wa karamati. Il reçoit la bonne nouvelle du contentement d'Allah, de la satisfaction d'Allah, qu'Allah est satisfait de ce que tu as fait durant ta vie et que maintenant tu peux retourner vers moi avec le cœur tranquille et apaisé. Et à ce moment précis, il n'y a rien qui est plus cher pour ce futur défunt que ce qu'il va vivre. Dans d'autres hadiths, on ne va pas entrer dans les détails, il est dit que lorsque le mu'min a goûté la mort et qu'il voit ce qu'Allah lui a réservé, alors même si on lui proposait de revenir dans ce monde et retrouver sa famille et avoir tous les biens de ce dunya, jamais il ne retournerait. Tellement il veut rencontrer Allah Azza wa Jal. Et regardez mes chers frères, comment se manifeste l'amour d'Allah Azza wa Jal pour un serviteur. Quand Allah aime quelqu'un, Allah Azza wa Jal lui accorde la guidée, la hidayah. Allah Ta'ala guide ses pas de ce dunya. Allah fait en sorte que cet homme s'éloignera ou trouvera la force qu'il faut pour rester éloigné des péchés. Et Allah Ta'ala donnera le tawfiq à l'acceptation pour cet homme, pour ce musulman ou musulmane, pour qu'il obéisse à Allah Azza wa Jalla. C'est pas que lorsqu'Allah aime quelqu'un, Allah élève cette personne, qu'il soit reconnu dans la société, qu'il soit immensément riche, célèbre, qu'on l'admire. C'est pas ça. Ça, c'est les critères de réussite dans ce dunya. Mais pour Allah Azza wa Jalla, c'est une personne qui a eu le tawfiq de vivre selon les ordres d'Allah. Et l'ultime étape, c'est quoi? C'est qu'Allah Ta'ala lui permet de retourner vers lui et de recevoir dans ce dunya, dans ces dernières secondes de ses 70 années de vie, la bonne nouvelle. Que Allah est content, Allah est satisfait de toi. Et ça, mes chers frères, c'est la consécration pour le musulman. C'est pour ça que nous vivons. Et petite parenthèse, voyez la différence qu'il y a entre rencontrer Allah Azza wa Jal et aimer la mort. Quand le prophète والسلام, dit que celui qui aime rencontrer Allah, Allah aime le rencontrer. Remarquez la question, ça c'est une parenthèse, mais ça prouve beaucoup de choses. Ça prouve le décalage qu'il y a de la relation entre les textes, entre nous, de la relation avec les textes, pardon, entre nous et les sahabas. Petite parenthèse, Aïcha, radiallahu anha, elle entend cette parole, elle me dit au prophète d'Allah, comment cela se fait-il? Personne ne veut mourir. Ça veut dire quoi? Elle n'a pas saisi ce que le prophète voulait dire. Et elle pose la question parce que le but, ce n'est pas d'écouter des bayans. Le but, ce n'est pas d'écouter des discours, comme nous le faisons. Nous sommes des, passez-moi l'expression, des bayanovores. Nous dévorons, nous avalons les bayans, les discours, que ce soit en direct, que ce soit sur Internet, que ce soit quick ou n'importe quel moyen médiatique moderne. Nous aimons écouter, mais ça ne nous intéresse pas de comprendre le fond du message qu'on véhicule, qu'on fait passer. Et l'étape d'ensuite, on ne peut pas l'atteindre, la mise en pratique, le amal, parce qu'on n'essaie même pas de comprendre. Aïcha, elle ne comprend pas. Qu'est-ce que le prophète veut dire? Ô prophète d'Allah, expliquez-nous. Personne ne veut mourir. Dans d'autres hadiths, dans d'autres versions, les gens étaient présents, ils se sont mis à pleurer. فَأَكَبَّ الْقَوْمُ يَبْكُونَ وَقَالُوا إِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتِ. Et dans d'autres versions, إِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَقَدْ هَلَكْنَا رَوَهُ النَّسَائِي. Dans d'autres versions, les gens, ils se sont mis à pleurer. Le prophète d'Allah, nous ne voulons pas mourir. Ça veut dire qu'Allah ne veut pas nous rencontrer. Et certaines personnes, ils ont dit que dans ce cas, nous sommes tous voués à l'échec. Et là, le prophète explique, ça veut dire quoi, aimer la mort? C'est ce moment-là où l'ange annonce la bonne nouvelle. Ça, c'est les sahaba. Ils écoutent, ils comprennent. S'ils ne comprennent pas, ils demandent. Parce que cette religion se pratique avec la compréhension. Ce n'est pas une religion qui se mémorise comme une poésie et qu'on applique, qu'on prie comme une gymnastique. C'est une religion qui se comprend. On comprend l'essence des messages divins. Et là, on peut mettre en pratique avec la présence de cœur. Petite parenthèse. Alors, mes chers frères, cette bichara, cette bonne nouvelle, a été commencée par Anas ibn Malik. Commentée par Anas, il dit que lorsque le musulman donc va mourir, cet ange annonce la bonne nouvelle. Et là, le musulman, pour rien au monde, ne retournerait dans ce dunya. Il veut rencontrer Allah Azza wa Jal. Dans le hadith d'Abu Huraira, radiallahu anhu, quand c'est un homme pieux, quand c'est un musulman pieux, les anges viennent. Dans d'autres sources, il est dit qu'il y a 500 anges qui descendent du ciel et qui s'assoient, mad al-basar, à l'horizon de ce musulman. Et là, ensuite, Malik al-Maud vient et il se positionne auprès de cette personne et il annonce à cette personne, « Ukhruji, ayyatuha nafsu tayyiba, ô âme pure et sincère, maintenant tu peux sortir, tu étais dans ce corps pur, maintenant je t'annonce la bonne nouvelle qu'Allah est satisfait de toi, qu'Allah t'a accordé son pardon, maintenant tu peux retourner auprès d'Allah Azza wa Jalla. » Dans d'autres versions, « Assalamu alayka ya wali Allah, Allahu yuqiru alayka assalam » que la paix d'Allah soit sur toi, je t'annonce qu'Allah Ta'ala te transmet ses salams. Ça, c'est le sens du verset. Lahumul bushra fil hayat al-dunya wa fil akhirah. Ils ont cette bonne nouvelle depuis ce dunya. Alors, mes chers frères, mais les hadiths sont très longs pour décrire quand ce musulman, son âme va quitter et qu'il y a des anges qui posent la main sur le corps de cette personne. Le temps que Malik al-Maud reprenne son âme. Comment Malik al-Maud prend son âme avec plus d'affection qu'une maman pour son enfant. Dans d'autres versions, il est écrit de Ibn Abi Dunya que l'âme dit au corps qu'Allah te récompense. Tu as vécu dans l'obéissance d'Allah et le corps répond à l'âme de la même manière. Et que la terre sur laquelle ce mu'min priait Allah, cette terre pleure. Ainsi que les portions du ciel ou les actions de ce musulman ou les actions de ce mu'min arrivées, ces portions du ciel également se mettent à pleurer. Et Iblis hurle Il reproche au petit shayatin, comment avez-vous laissé cet homme quitter ce dunya de l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est quand le mu'min quitte ce dunya. Il est encore parmi nous et il a déjà reçu cette bonne nouvelle. Alors, mes chers frères, ça, c'est une mort exemplaire. Ça, c'est la mort qui doit être souhaitée par chacun d'entre nous, mes chers frères. Mais ce musulman, qu'a-t-il fait d'extraordinaire pour mériter un départ aussi merveilleux de ce dunya? Il n'a pas fait quelque chose d'exceptionnel. Il y a trois points. C'est un homme avant tout qui a vécu dans ce monde comme vous et moi. C'était un père de famille ou une mère de famille ou tout simplement un citoyen comme vous et moi. Et il vivait, il travaillait, mais voilà, il n'avait pas oublié qu'il a des devoirs dans ce bas monde envers sa femme, envers ses épouses, ses parents, tout ce qui concerne les huquq ou l'ibad. Mais deuxième point, c'est un musulman qui travaillait, certes, il gagnait sa vie de manière correcte et honnête, mais il ne vivait pas de ce poste dunya. Parce que le problème, c'est quoi? C'est quand on fait partie de ces gens, innal ladina la yarjuna liqa'ana, ceux qui n'espèrent pas notre rencontre, wa radu bil hayati dunya, et qui sont satisfaits de la vie présente, wa tma'annu biha, et ils s'y sentent en sécurité. Le problème, c'est de comprendre la relation qu'on doit avoir avec les biens de ce monde. Quand j'aime ce dunya plus que tout, à un degré où je suis prêt à faire passer le dunya, mon travail, aux dépens d'une prière en congrégation. Et quand je veux encore plus, quand il y a la cupidité qui habite mon cœur, et quand je consacre l'essentiel de mon temps, de ma vie, pour gagner plus et encore plus, et quand l'amour de ce monde remplit mon cœur, qu'est-ce qui se passe, mes chers frères? L'amour pour Allah ne peut plus rentrer dans ce cœur. Et qu'est-ce qui se passe, mes chers frères? On n'a plus envie de quitter ce confort. Et on fera partie de ces gens, man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'a. Celui qui ne veut plus rencontrer Allah parce qu'il se sent bien de ce monde. Et paradoxalement, il n'a pas préparé ce moment clé. Et malheureusement, il ne recevra pas la bonne nouvelle de cet ange qui normalement annonce au mu'min qu'Allah est satisfait de toi. Troisième caractéristique de ce mu'min, mes chers frères, il vivait comme nous à l'île de la Réunion. Le samedi, il marchait dans la rue Maréchal Leclerc. Pendant les vacances, il allait à Paris, il amenait ses enfants à Disneyland, comme beaucoup de gens parmi nous. C'était un homme ordinaire. Mais cet homme n'a pas été piégé par les péchés, par les plaisirs de ce monde. Il savait que ce dunya, c'est un sijn, c'est une prison pour le croyant. L'alcool, l'adultère, les sorties en boîte de nuit, l'argent facile, l'intérêt, le riba, tout ça, ce sont des péchés. Ce sont certes des plaisirs attrayants, mais ce n'est pas pour moi. On va laisser ça pour ceux qui n'ont aucun espoir de retour vers Dieu, qui ne croient pas au paradis et à l'enfer. Et dans un hadith de Jabir, radiallahu anhu, ça c'est un hadith aggravé dans les esprits. Il est dit que lorsque Malik al-Maud reprend l'âme de cette personne, hadith rawahu daylami, il dit que tout ce qui l'empêchait de revenir vers le haq, yujma'u lahu kullu shay'in yamna'uhu anil haq, l'alcool, la drogue, les femmes, l'intérêt, tout ce qui l'empêchait de se rapprocher d'Allah, toutes ces choses-là sont présenté devant ses yeux. فَيُجْعَلُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ فَعِنْدَ ذَلِكَ يَقُولْ رَبِّ ارْجِعُونَ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ. Lorsqu'il voit ses péchés qui l'ont freiné, qui l'ont fait prendre le mauvais chemin, là il dit, oh Allah, ramène-moi de ce dunya afin que maintenant j'accomplisse les bonnes actions. Mes chers frères, il y a deux chemins, deux destins. Et pour ces destins, il y a deux chemins. Il y a deux manières de vivre cette vie. Il y a deux manières de vivre l'adoration d'Allah. C'est à nous de choisir notre chemin qui nous mènera vers notre destinée. Et les bonnes nouvelles vont s'accumuler pour ce mu'min, mes chers frères. Comme Malik al-Maud reprend son âme, ce n'est pas comme Malik al-Maud prend l'âme de quelqu'un qui délaissait ses prières ou qui n'obéissait pas à ses parents. Quand son corps est posé dans la tombe, quand les anges vont lui poser les questions, shattani, une différence énorme entre le mu'min salih et le musulman qui faisait des péchés, mes chers frères, lorsqu'il sera ressuscité. Et chaque étape, il y a des descriptions pour le musulman pieux et le musulman qui n'a pas compris quel était son but de ce dunya. Alors, mes chers frères, quand Allah veut guider quelqu'un, dans le hadith de Aïcha, radiallahu anha, qui se trouve dans les commentaires de Sahih Bukhari, il dit que lorsqu'Allah ta'ala veut du bien pour quelqu'un, dans les derniers moments de sa vie, Allah azza wa jal envoie un ange qui va lui montrer les bonnes choses à faire et qui va l'empêcher d'aller vers le mal. فَإِذَا حُضِرَ. Et lorsque le moment de la mort, le sakaratul maut arrive, وَرَأَى ثَوَابَهُ. et lorsqu'il voit de ses yeux qu'est-ce qu'Allah Ta'ala lui a réservé comme récompense, فَذَلِكَ حِينَ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهُ وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَ. C'est ce moment-là où ce musulman, il veut plus que tout le monde retourner vers son créateur, et Allah veut que cette créature retourne vers lui. Alors mes chers frères, pour faire partie de cette catégorie de personnes, il y a trois choses. Il faut donner le maximum d'attention au culte d'Allah, ce qu'on appelle le huquq Allah, les droits d'Allah. Mes chers frères, personne parmi nous ne pourra avoir la bonne nouvelle du paradis dans le sakaratul maut tant qu'il ne sera pas régulier dans sa salat. Dans certaines versions, il est dit que Malik al-Maut, ça c'est de Ibn Abi Dunya, Malik al-Maut ausculte, il voit le visage de chaque musulman 5 fois par jour. Et dans d'autres versions de Ad-Daylami ou de Ibn Abi Dunya, la même personne, il dit que Malik al-Maut ausculte le visage de chaque musulman aux 5 moments de prière. Et lorsque ce musulman quitte ce dunya, فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يُحَافِذُ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ, si c'était quelqu'un qui restait ferme dans ses 5 prières, دَنَا مِنْهُ الْمَلَكُ, l'ange s'approche de lui, وَطَرَدَ مِنْهُ الشَّيَاطِينَ, et l'ange chasse les démons, les shayatines de cette personne, et l'ange le fait prononcer le kalimah avant de mourir. Mes chers frères, restez ferme sur ces salats. Imam Al-Qurtubi ibn Kathir, un entre les deux, il dit que la salat c'est quoi? C'est vouer le culte d'Allah 5 fois par jour. Mais c'est également comprendre quelle est ma relation, moi, musulman, avec Allah. Comment mon corps doit obéir à Allah, comment dans mon cœur il ne doit y avoir que l'amour d'Allah, Azza wa Jal. Deuxième chose, faire attention aux droits des gens. Et avant tout, le droit des parents. On pourra être les plus grands adorateurs d'Allah, jeûner tous les jours, faire des prières de la nuit, toutes les nuits. Mais si notre père ou notre mère n'est pas satisfait de nous, la yadkhulul jannata, promesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui désobéit ses parents ne peut pas accéder au paradis. Et parmi les droits des gens, le droit de sa femme, le droit de ses enfants. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les meilleurs parmi vous sont ceux qui agissent le mieux avec leur famille. Mes chers frères, le fait d'agir avec ses voisins, avec les musulmans et ceux qui n'ont pas la foi, sachant que le prophète alayhi salat wa salam a dit, la chose qui pèsera la plus lourde à la balance le jour du qiyamah, c'est quoi? Al-khuluqul hassan, le bon comportement. Et troisième point, faire extrêmement attention au péché intérieur, faire son tazkiyah, enlever de son cœur l'orgueil, la jalousie, l'hypocrisie, tout ce qui nous éloigne de l'obéissance d'Allah. Mes chers frères, nous demandons à Allah azza wa jal de guider nos pas. Nous sommes musulmans, c'est la première étape. Nous demandons à Allah, la deuxième étape, de nous guider jusqu'au dernier moment de notre vie pour accomplir les bonnes actions et pour rester éloignés des péchés. Dans un hadith, Allah Ta'ala, le Prophète sallam dit que Allah n'accorde pas 2 tranquillités à un musulman, à une personne, pardon. Et Allah n'accorde pas 2 craintes à une personne. Celui qui, de ce monde, a la crainte d'Allah, le jour de la résurrection, son cœur sera apaisé, il n'y aura pas de crainte. Mais celui qui vit de ce dunya tranquille, وَطْمَأَنُّ بِهَا, il se plaît et il ne prépare pas sa vie de l'au-delà, impossible que cet homme soit heureux et apaisé dans l'au-delà. Et nous demandons à Allah de guider nos pas jusqu'au dernier moment, que lorsque l'ange de la mort arrive, avant qu'il vienne, il y a des anges qui nous annoncent cette bonne nouvelle, qu'Allah est satisfait de nous. Qu'Allah Ta'ala donne la guidée à chaque personne ici présente et à chaque musulman. مَا تَوْفِقِ إِلَّا بِاللَّهِ. Et avant de conclure, mes chers frères, on a eu l'occasion ces derniers temps de faire la salat par raison de santé très loin de la Jamaat Khan, appuyé contre le mur. Et il y a eu un constat qu'on a fait depuis 5 ou 6 semaines. C'est un constat effroyable. Je n'imaginais même pas. Le nombre de personnes qui, pendant le khutbah, s'assoient au niveau du hawz, ou sur le banc, ou sur les derniers safs de l'escalier, et qui parlent alors que le imam fait le khutbah. Je n'imaginais pas qu'il y avait autant de gens. Je pensais qu'une ou deux personnes égarées, mais non. Il y a peut-être le quart de la masjid qui reste éloigné et qui pendant le khutbah parle. Sachez, mes chers frères, que vous avez fait un effort considérable. Vous avez quitté votre travail, vous avez écouté votre pause déjeuner pour venir assister à la salatul jum'a, qui est le plus grand rendez-vous des musulmans. Si vous vous mettez à parler, si on se met à parler au moment que le khatib, que le imam fait sa prêche, vous ressortez de cette mosquée sans aucune récompense. Est-ce que c'est ça que nous recherchons? Si quelqu'un dit, si vous faites telle faute professionnelle à votre travail, à la fin du mois, vous n'aurez rien du tout. Personne ne veut ça. Alors, mes chers frères, que chacun prenne conscience de l'importance de ce Jumu'a et que chacun d'entre nous garde le silence total pendant le khutbah. D'accord ? Si on avait plus de courage, on aurait pris notre courage à deux mains et pendant les deux khutbahs, on aurait fait passer ce message en français. Mais j'espère que le message est passé. Oman tawfiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.